Premièrement, on va se présenter. Je me présente Simon et je suis présentement en train de finaliser, quand même, on arrive à la fin, en train de finaliser un stage PSIJ avec l'AMI en tant que gestionnaire de projet international.
Yes, mon nom c'est Patricia et dans le fond, je fais également un projet de PSIJ en collaboration avec l'AMI et une petite organisation en Bolivie appelée la Fondation Winnie en tant qu'agent de langue.
Yeah! Ça fait déjà quelques semaines, voire mois, qu'on se côtoie, quand on le sait, mais quand même, pour le bien de la chose, il fallait qu'on se présente. Qu'est-ce qu'on fait ici, puis c'est quoi le but de cette saison, qui va être la troisième saison du podcast de l'AMI? En fait, on a décidé de prendre le relais parce que on voulait un peu plus explorer c'était quoi le programme du PSIJ, un peu en faire la promotion, un peu le démystifier. Fait qu'est-ce que c'est quoi les types de mandats qu'on peut y retrouver, pourquoi faire un tel stage, puis ben concrètement nous, qu'est-ce que ça peut nous amener ou qu'est-ce que ça nous a amené jusqu'à présent comme stage. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de prendre ça comme sujet pour la saison 3 des podcasts de l'AMI.
Yes, mais Simon, c'est quoi un PSIJ?
Ben écoute, j'attends la réponse.
Parce que toi et moi, on sait c'est quoi, mais je pense pas que tout le monde est au courant. Un PSIJ, c'est quoi? C'est beau essayer de comprendre comme ça dit vite. Mais un PSIJ, en fait, c'est un programme de stages internationaux pour les jeunes, qui est en fait une initiative de stratégie jeunesse du gouvernement du Canada, qui vise à fournir aux jeunes Canadiens, comme toi et moi, une opportunité d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger dans le domaine du développement international et ainsi d'acquérir des compétences qui les aideront pour leur futur emploi ou la poursuite de leurs études. Offert par différentes organisations canadiennes à travers 16 pays différents, les candidats éligibles ayant entre 19 et 30 ans et qui détiennent un diplôme d'études postsecondaires seront formés et accompagnés tout le long de leur parcours. Ils pourront choisir une variété de secteurs, dont l'égalité des genres, les communications, les services sociaux, l'agriculture, le marketing, le domaine des sciences, l'environnement. Dans cette série de 3 à 4 épisodes, nous vous présenterons différents parcours des jeunes, comme nous, qui ont décidé d'entreprendre ce défi, qui est de participer dans un projet de PSIJ.
Écoute, tout y est, tout a été dit. Donc, tel que ça a été mentionné, on va avoir à peu près 3-4 épisodes dans lesquels on va recevoir d'autres stagiaires de notre cohorte avec l'AMI pour discuter un peu de leur expérience, qu'est-ce qui les a amenés à postuler, qu'est-ce qui les a amenés à faire ce stage-là, puis qu'est-ce que comment ils trouvent ça, qu'est-ce qu'ils en retirent jusqu'à présent et tout et tout. Fait que, ouais, c'est à peu près ça que vous pouvez vous attendre. Allons-y avec le premier épisode. On s'est dit qu'on allait nous-mêmes répondre aux nombreux questionnements qu'on a par rapport au PSIJ. Fait qu'on va y aller vraiment sous une formule de discussion où on se pose, mutuellement des questions afin d'y répondre personnellement. Ça va mettre la table aussi pour les prochains invités ou les prochains épisodes. Je peux y aller d'une première question, Patricia, et à toi d'y répondre. C'est quoi les expériences que tu avais préalablement avant de postuler au stage PSIJ? Quelle expérience tu trouvais pertinente?
Quelle expérience j'avais avant? J'ai eu l'opportunité, par simple curiosité, il y a quelques années, en tant que telle, j'étais encore au cégep. Et il y avait une des responsables de l'animation étudiante, en fait, qui avait déjà été au Sénégal, qui avait des amis au Sénégal, qui, en fait, participait, si on veut, ou qui était formatrice dans une organisation sans but lucratif ou une organisation non gouvernementale quand même assez connue au niveau de Montréal, appelée Mère et Monde, qui fait des, si on veut, des stages de coopération internationale ou des programmes comme le Québec sans frontières, QSF, ou des PSIJ, comme celui que j'ai décidé de m'inscrire. Après avoir jasé avec elle, et en avoir appris plus sur ce qui était le développement international, parce que je vais t'avouer qu'à ce moment-là, j'étais un peu plus dans le néant de qu'est-ce que je suis aujourd'hui. On a décidé d'ensemble partir un projet pilote en collaboration avec Mère et Monde pour participer, on était entre 8 et 10, dans un voyage d'initiation à la coopération internationale au Sénégal, qu'on a appelé un projet Culturor, qui visait dans le fond à venir prouver ou démontrer les avantages de participer à des activités de loisirs, telles que la danse, le théâtre, les arts plastiques, dans la vie d'un jeune en développement. Donc, à la région de Thiès, juste avant la pandémie, en 2019, on a pris notre envolée pour le Sénégal pendant un mois et demi pour participer à ce projet, à ce projet-là, où on a eu la chance d'avoir des formations pré-départ comme nécessaires, si on veut, en apprendre plus sur le pays, sur la situation politique, sur les changements qu'on peut vivre chez nous en tant que personne, le choc culturel qu'on peut avoir quand on vit une expérience comme ça, le détachement qu'on peut avoir de vivre une réalité complètement différente que celle qu'on vit chez nous. Donc ça m'avait vraiment, vraiment marqué de vivre cette expérience-là. Et je me rappelle avoir voulu participer dans une autre expérience comme ça, et dans le but d'une carrière professionnelle plus tard, si on veut, ou dans la poursuite de mes études, j'ai fait plusieurs recherches qui m'ont permis de tomber sur le fameux PSIJ, dont j'avais déjà entendu parler très brièvement lors de mes formations de pré-départ avec Mère Monde. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà un peu d'expérience là-dessus. Ça m'avait permis de voir ce que je pouvais faire dans les domaines dans lesquels je pouvais m'embarquer. C'était vraiment dans mon champ d'intérêt au niveau de mes études, puisque j'ai étudié en relations internationales et langues modernes avec une mineure en études féministes. Donc, tu sais, tout ce qui est droits humains, droits de l'enfant, c'est vraiment ce qui m'a poussée à postuler dans le poste que je comble aujourd'hui au sein de l'AMI. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là parmi les autres, ou pourquoi je me suis permis de dire que j'étais assez haute pour appliquer pour un PSIJ avec l'AMI en tant qu'agent de langue.
Tu l'as mentionné un peu parce que c'était déjà quelque chose que tu avais appris avec Mère et Monde, mais où est-ce que tu as trouvé les mandats, les nombreux mandats, il faut le dire, il y en a quand même beaucoup, de mandats de PSIJ. Fait que où est-ce que tu as trouvé ce mandat-là, puis comment tu as fait pour te décider sur lequel?
Yes, en fait, en allant sur le site directement du programme PSIJ du gouvernement, on tombe sur toutes les organisations, tous les organismes, en fait, qui font partie de ce programme-là, les pays dans lesquels ils sont impliqués, un peu les secteurs d'expérience pour lesquels chacun participe. Donc, je suis vraiment allée dans toutes, je te dirais que j'ai fait ma recherche dans toutes les organisations en tant que telles pour voir c'était quoi les mandats, pour savoir vraiment qu'est-ce qui était demandé de moi. Tous les mandats sont différents, il n'y en a pas un qui est pareil. Ce qui peut être considéré comme un agent en langue chez l'AMI peut ne pas l'être chez Alternative, comme ne peut ne pas l'être chez My Monde. Donc, il y a vraiment beaucoup de recherches qui s'est faite de ce côté-là de ma part. Je dirais aussi que beaucoup, en fait, de ce qui a influencé mon choix, c'était qu'il fallait absolument que ce soit un stage virtuel. Puisque, comme tu le sais, mais que c'est pas tout le monde qui est au courant, j'étais à ce moment-là en Espagne à la fin de poursuivre mes études à l'université à l'extérieur, à l'étranger. Donc c'était un peu limite, c'était un peu très demandant si on veut. de juste prendre mes bagages après avoir été 6 mois pas chez moi, de pas avoir vu mes amis, pas avoir vu ma famille, et de juste prendre ces mêmes bagages-là et de m'embarquer dans un projet dans une autre partie du monde où j'aurais pas vu les gens que j'aime encore pendant au moins 4 à 6 mois encore. Donc ça aurait été tout un défi. Ça, pourquoi j'ai choisi un stage virtuel. Et l'ami avait exactement le poste que je trouve qui convenait le plus à mes besoins à ce moment-là, qui venait me chercher le plus au niveau de mes expériences, mon champ d'intérêt. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'appliquer à ce poste-là.
Cool. Faut-il le mentionner aussi que je crois que, du moins durant notre cohorte, ou du moins pendant la période qu'on fait ça, la majorité des mandats, voire la totalité, là, mais on va dire la majorité pour être sûr, des mandats se faisaient en virtuel, dû aussi à cause des consignes du COVID et tout. Les consignes étant différentes selon les pays à travers le monde. Fait que je pense que pour uniformiser le tout, la majorité des mandats étaient en virtuel. Fait qu'effectivement, dans ton cas, je pense que ça a été un bon timing. Ça t'a permis de revenir chez toi quand même après quelques mois à l'étranger. Puis de quand même faire un travail international, ce qui est quand même très cool.
Ouais, ça a vraiment été une expérience pas comme les autres. C'était vraiment une expérience à vivre, je considère au moins une fois dans la vie. Mais oui, c'est sûr que le fait de sortir d'une pandémie a fait en sorte que les choix n'étaient pas limités, parce que je le vois pas comme être limité, mais je vois plus ça comme des opportunités différentes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça va être une expérience à vivre d'une autre façon, mais je trouve que j'en ai autant appris de ce que j'aurais pu apprendre directement sur le terrain, donc je regrette aucunement d'avoir choisi de faire mon PCJ en ce moment, de la façon comme je l'ai fait avec l'organisation que j'ai choisi et le mandat lequel je combe en ce moment.
Cool! Puis là, parce que je sais pas si ça a été mentionné, mais on le sait, on arrive sensiblement à la fin de notre mandat, on est dans la dernière ligne droite. C'est quoi l'élément ou l'apprentissage que tu retiens le plus de ce stage, ce PSIJ virtuel-là, quand même, il faut le mentionner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort du lot?
Je te dirais que, de façon très surprenante, ça m'a vraiment permis de grandir sur un plan personnel, mais je dirais surtout côté organisation. Parce que, tu sais, on dit, tu vas à l'université, veux pas, tu as une certaine organisation, tu es habitué à avoir un horaire, de remettre des travaux, des examens, te préparer. Oui, c'est vrai, c'est beau. Veux pas, ça fait partie d'une vie d'étudiant. Quand tu rajoutes à ça le fait que tu as 6 heures de décalage horaire avec ton partenaire qui se trouvait en Bolivie et qu'il faut que tu t'ajustes à cet horaire-là, qu'il faut que tu t'ajustes au fait que il n'y a pas la même façon de travailler d'un côté ou d'un autre, que tu peux pas nécessairement, l'internet est un outil aujourd'hui qu'on prend pour acquis dans nos pays, mais qui n'est pas toujours le cas pour la plupart des pays du Sud. On a des situations qui changent, pendant que pour nous c'est l'été, pour eux c'est l'hiver. En temps de pandémie, il y a des gens qui deviennent malades, ou juste simplement parce que c'est l'hiver, une petite grippe ici et là, ça arrive à tout le monde. Un centre qui doit fermer à cause du gouvernement, ma propre situation de santé qui change, le fait que j'ai changé ce décalage horaire-là pour revenir à la maison, devoir m'adapter, tout ça, le revenir chez moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation pour essayer de rester dans l'horaire, pour essayer de faire tout sans laisser la job de côté, sans laisser la personne que je suis de côté, sans laisser, si on veut, mes amis, ma famille, mon partenaire. C'est ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. Je te dirais que c'est ce que j'ai le plus retenu de ce stage en format virtuel à date. L'organisation, l'utilisation, la facilité en fait d'utiliser un calendrier virtuel, le fait de pouvoir s'adapter. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On a une façon très occidentale de travailler ici au Canada, qu'on travaille de 9 à 5 ou de 8 à 4 et que c'est fini, c'est restreint, ça finit là. On comprend qu'on peut être malade des jours, mais ça s'arrête là. Ou quand on entame un projet, on s'entend à ce qu'il soit terminé, à ce qu'il y ait un début, une fin, un milieu. C'est pas toujours le cas en développement international et c'est correct, c'est normal. Et ça vient chercher, veux pas, tout ce que t'as appris, toutes tes convictions, tes valeurs, ta vie de tous les jours. Je pense que c'est essentiellement ça ce qui fait qu'un PSJ, surtout en virtuel, fait retenir sur ce côté-là.
Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu as dit, parce que moi aussi, je pense que c'est quelque chose qui est venu me chercher aussi. Dans le sens que c'est quelque chose que j'ai retenu, surtout le format virtuel, dans tous les cas, il y a beaucoup d'organisations à avoir, autant présentiel qu'en virtuel. Mais en virtuel, j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être auquel on est moins habitué, dans le sens qu'on est beaucoup amené à pratiquer notre autonomie. Je veux pas, le fait de ne pas être sur place, on n'a pas une communication constante avec le partenaire, je veux pas. Fait qu'il faut vraiment avoir des bons canaux de communication. Il faut vraiment établir ça très tôt dans le mandat. Je crois que c'est une excellente pratique à avoir, d'ailleurs, de bien établir les moyens de communication. Mais ça travaille beaucoup. Tout ce qui est l'organisation personnelle, tu l'as mentionné, l'agenda personnel électronique, virtuel, je ne l'ai jamais utilisé autant qu'avec ce stage-là. Et un outil très, très sous-estimé, peut-être, ou très, très, très précieux, je dirais ça comme ça, pour garder en tête tout ce qu'on a à faire et les dates et tout. Fait que, le virtuel amène vraiment une coche à l'organisation, à l'autonomie. Comme j'ai dit, tu sais, souvent on parle une fois de temps en temps avec notre partenaire, mais c'est pas quotidiennement, ou du moins, non, c'est rarement quotidiennement, j'ai l'impression. C'est ça, ça demande beaucoup d'organisation. Ça pratique beaucoup, c'est très formateur à ce niveau-là. Si vous avez quelqu'un qui a un petit peu de difficulté avec ça, c'est sûr qu'il va trouver ça un peu difficile peut-être au début, mais ça sert aussi à former les PSJ. On rappelle, c'est des stages professionnels, fait que c'est un bon endroit aussi pour développer ce genre d'habileté-là qui va nous servir logiquement dans la majorité des types d'emplois qu'on peut retrouver dans le domaine et même dans d'autres domaines d'emploi.
Je sais pas si toi aussi ça t'est arrivé, mais c'est fou à quel point, tu sais, dans la vie de tous les jours, quand on travaille avec quelqu'un dans un bureau ou quand on travaille avec quelqu'un de façon en présentiel, tu sais, on prend le temps d'avoir ce contact-là, on a un échange de regards, on a un échange de sourires, on a un échange face à face qui nous permet de voir la réaction de la personne, de comprendre ce qui se passe, de ce qu'il pense. Et là, avec le virtuel, on n'a pas ça. Et ici, on a l'habitude d'envoyer des courriels pour tout. Et là, on se rend compte, comme je répète, je sais pas pour toi, mais je me suis rendu compte qu'au début, j'envoyais tellement de courriels ou de messages et je voyais qu'il n'y avait pas de réponse. Puis ça me... pas que ça me fâchait, mais ça venait me chercher parce que je comprenais pas pourquoi j'avais pas de réponse. Dans ma tête, je me disais, ok, mais c'est-tu parce qu'ils sont occupés? C'est-tu parce qu'ils l'ont pas reçu? Faut-tu que j'en envoie un autre? Et à un moment donné, j'ai compris que c'est pas qu'ils sont moins impliqués, c'est pas qu'ils sont moins intéressés, c'est pas qu'ils ont plus de travail, c'est juste que c'est une façon complètement différente de travailler. Et que des fois, c'est pas nécessaire d'envoyer tout ça. Ça laisse place à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interprétations de la part de la personne qui est de l'autre côté. c'est des cultures différentes. J'avais l'avantage de parler la langue, mais il y en a beaucoup pour qui ça vient restreindre d'une façon ou d'une autre la communication. Là, évidemment, c'est important à mentionner que moi, je parle espagnol, donc c'est facile pour moi d'avoir cette communication-là. Mais dans les formations de pré-départ, si on veut, il y a des cours de langue qui sont associés aussi. Vous n'êtes pas lancé en Argentine, par exemple, alors que vous ne comprenez pas l'espagnol. On prend le temps de vous encercler, d'être sûr que vous êtes soutenu, que vous n'êtes pas laissé à vous tout seul. Je veux pas que ça fasse peur à la personne qui écoute ceci, qui est en train de se dire « Ok, non, c'est sûr que je serais pas capable. » C'est loin d'être seul. C'est loin d'être ça. Mais c'est vraiment ça, c'est un côté communication. Puis tu sais, un WhatsApp, ça va tellement mieux. Envoyer un message WhatsApp, pas un message texto, là, un message vocal sur WhatsApp, à quel point ta réponse est plus simple, elle est plus facile, c'est clair, ça apporte pas de... Il n'y a pas de place à interprétation, il n'y a pas de place à ce que la personne elle comprenne mal ce que t'as dit, c'est vraiment juste comme « Ok, c'est bon, je suis d'accord » ou « Ouais, ça peut aller », t'sais, comme tu l'as dit, t'as pas nécessairement besoin d'avoir un meeting avec ton partenaire une fois par semaine. Je pense que depuis mon mandat a commencé, j'en ai eu 2-3. Puis je dirais que c'est vraiment... c'est le pousser, là, vraiment, vraiment loin. Là, c'est sûr que encore là, ça dépend. Là, mon mandat, il est majoritairement avec des enfants, donc... C'est sûr que dans ton cas, j'imagine que tu dois en avoir un peu plus que qu'est-ce que moi j'en ai. Mais, tu sais, c'est vraiment ça, là. Ça aussi, ça m'a marqué de voir à quel point on a cette habitude-là de parler puis d'envoyer des messages pour rien.
La façon que je le vois, effectivement, de un, oui, j'ai eu beaucoup plus de rencontres avec mon partenaire que juste 2-3. Moi, idéalement, c'était à toutes les semaines, au moins une fois quand on se prenait un temps pour se jaser. Mon mandat était quand même foncièrement, fondamentalement différent de le tien, dans le sens que c'est deux mandats complètement différents. Donc, c'est sûr que moi, on se parlait un peu plus régulièrement. Mais, ceci étant dit, je suis tout à fait d'accord. Les WhatsApp, très, très utiles. Je suis pas allé encore jusque dans les vocales. On n'est pas rendu là dans notre relation, moi, avec ma contrepartie bolivienne. Les WhatsApp, moyen très efficace de s'échanger de l'information. Mais on dit WhatsApp parce que nous, nos exemples sont en Bolivie, les deux d'ailleurs. La méthode, le moyen de WhatsApp est vraiment très, très utilisé là-bas. Et je sais qu'il est utilisé dans plusieurs autres pays, là, mais l'important, c'est juste d'avoir un moyen clair, efficace, rapide de communication. Là, je pense que c'est vraiment ça. Les courriels, ça, j'en ai pas envoyé beaucoup, je vais être franc. Là. Dès le début, ça a été clair entre moi et ma contrepartie en Bolivie que c'était le WhatsApp qui allait être efficace. Fait que ça a été ça. Évidemment, les documents officiels ou les écrits plus officiels, ça passe par courriel, là, question d'avoir des traces. Mais tu sais, ça c'est. Voilà, c'est arrivé moins fréquemment. Fait que non. Je sais plus exactement ce que je m'en allais, mais tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par rapport à la communication. Très, très important, selon moi, d'établir les bases très, très rapidement dans le mandat. Puis de s'ajuster en cours de route. De demander, moi, à peu près à mi-mandat, je me suis arrêté avec ma contrepartie en Bolivie, puis j'ai fait « Est-ce que notre méthode de communication vous convient encore? Est-ce que une fois par semaine, ça vous convient? Vous voudriez que ça soit deux? Ou vous voudriez que ça soit une fois ou deux semaines? Ou vous voudriez que ça soit différent? Ou peu importe. » Puis finalement, on a décidé de garder la même méthode qu'on avait jusqu'à ce moment-là. Mais je pense que c'est quand même important de prendre le temps de s'asseoir, de communiquer, de mettre à jour aussi au besoin. Puis au pire, dans le pire des cas, ça change pas.
Ah non, je suis complètement d'accord avec ça. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est pas fait pour être fixe. Ton mandat, il change, il évolue, tu sais, ça se peut que, tu sais, veux pas, t'es là parce qu'il y a un besoin de la part du partenaire qui a été communiqué directement envers une organisation canadienne qui est la raison pour laquelle t'es là, mais ce besoin-là, ça se peut qu'il change, ça se peut qu'il évolue, ça se peut que tu te rends compte, toi, de ton côté, que finalement, ça peut être différent, que c'est pas nécessairement ça, puis c'est correct. Là, en parlant de besoins, je me rends compte que depuis tantôt, je parle de mon mandat, puis on sait pas plus c'est quoi. J'ai choisi de m'embarquer dans le projet d'être agente de langue en collaboration avec un partenaire en Bolivie qui s'appelle la Fondation Wigné. Et en fait, quand on dit ça de même, ça fait quoi une agente en langue? Ça peut faire plein de choses. Ça peut faire vraiment plein de choses. Mais de mon côté, puis je pense que c'est pour ça aussi que le projet est venu me chercher autant, c'est que l'essentiel, je dirais à 90% de mon mandat, est d'apprendre ou d'enseigner, en fait, à des enfants entre 6 et 8 ans les bases de la langue française. Assez pour qu'ils puissent communiquer avec des futurs stagiaires comme toi et moi, avec des personnes qui vont faire du volontariat, avec n'importe qui pourrait aller visiter en Bolivie et qui aurait ce pont de communication qui est difficile envers le reste de la communauté parce que le langage peut être une barrière dans la vie de tous les jours et ça fait peur. C'est pas quelque chose à laquelle on est habitué. Ici, si on parle français, on est habitué à se faire comprendre. Si on parle anglais, on sait qu'il y a quelqu'un qui va nous comprendre. Quand on va dans des pays comme un pays en Amérique latine et qu'on ne parle pas nécessairement espagnol, on va essayer d'apprendre la langue, oui, effectivement, mais il y a comme un petit confort qui vient avec le fait de juste pouvoir dire bonjour et se faire comprendre quand on dit bonjour. Quitte à ce que ce soit juste, ça s'arrête là, bonjour, je m'appelle Patricia, comme c'est tout. C'est aussi simple que ça, mais ça vient faire une méchante différence. Et je me suis embarquée là-dedans parce que quand je suis arrivée au Canada, je suis née au Venezuela. Donc, je parlais espagnol, je parlais anglais. C'était les deux langues que j'avais toujours parlé dans ma vie. J'ai appris l'italien parce que mon père est italien quand même assez jeune. Mais le français est venu après. Et je me rappelle les deux à trois premières semaines que j'y habitais au Québec, je pleurais à tous les soirs parce que j'avais pas le goût d'aller à l'école. Parce que les gens me comprenaient pas, parce que j'étais pas capable de les comprendre. Et à ce moment-là, j'étais juste un enfant. Mais un enfant, ça finit par se comprendre. Ça finit par perdre cette gêne-là de « ok, il est pas capable de me comprendre, je vais essayer de faire des mimiques, quitte à ce que ce soit. » Et on va finir par se comprendre, on va être fini par faire des amis, ça va finir par passer, il n'y a pas de trouble. Mais un adulte, ça a tellement d'ego que éventuellement, ce manque de communication-là va venir chercher sa personne intérieurement de faire comme « ok, je suis pas capable de communiquer, la personne, elle me comprend pas. Je sais pas comment je me sens là-dedans. » Et quand on s'embarque dans un projet comme ça, où qu'on laisse tout ce qu'on connaît en arrière, là, c'est sûr que virtuel, c'est un peu différent, mais quand on s'embarque dans un projet comme ça, où qu'on déracine, où qu'on décide de partir 4 mois, 6 mois en Afrique, par exemple, où qu'on comprend pas du tout la langue, ou qu'on ne connaît pas nécessairement la culture autre que ce qu'on a appris en partant, ou que tout ce qu'on connaît, on l'a laissé en arrière, ce réconfort-là de quelqu'un qui est capable de nous comprendre, quitte à ce que ce soit un enfant, ne se compare pas à n'importe quelle autre expérience. Donc, quand on m'a présenté ce projet, de dire « Écoute, on aurait besoin de quelqu'un qui est capable d'apprendre les bases de la langue aux enfants pour que ce soit plus facile pour les stagiaires qui vont venir après », j'y ai pas pensé deux fois avant de dire « Ok, je m'embarque dans le projet » parce que je l'ai vécu. J'ai été de ce côté-là, j'ai été du côté de l'enfant, j'ai été du côté du stagiaire et là, je suis du côté de faire une différence pour ces gens-là, pour ces enfants-là. Là, je sais que tantôt, on a analysé sur le fait que j'étais assez hot pour participer à ça, pour être choisie. Mais en fait, je me trouve plutôt privilégiée d'avoir été choisie. Je me trouve privilégiée de pouvoir participer à ça, de pouvoir grandir avec ça comme expérience, de pouvoir avoir tous ces outils-là que je vais avoir appris, que je vais avoir accumulé tout le long de mon stage, parce qu'ils vont permettre de grandir autant dans le plan personnel qu'autant dans un plan de carrière que dans mon parcours scolaire en tant que tel.
Mais il y a un truc que je veux quand même mentionner. Là. Puis tu l'as dit rapidement, puis je pense que c'est important. Par rapport au mandat, je pense que c'est important de le dire, les mandats sont formulés avec, évidemment, les partenaires, mais c'est les partenaires qui émettent leurs besoins. Donc, les responsables des OCI canadiennes, des OCI québécoises, quand je dis OCI, c'est les organisations, les organismes de coopération internationale, s'assoient avec les ONG ou les organismes pays des Sud, puis ensemble, en fait, ils établissent les besoins de l'organisme, puis c'est avec ça qui vont faire les mandats. Fait que c'est vraiment... c'est quand même important de le spécifier, je crois, là, que les mandats sont vraiment conçus en fonction des besoins des organismes des pays des Sud, puis que les OCI vont juste chercher des personnes pour les aider, pour combler ces mandats-là, et non basés sur le besoin de stagiaires, là, parce que ça, c'est un autre domaine, peut-être, mais je pense que c'est quand même important de le mentionner. Puis tu l'as mentionné là, très bien là, dans ce que tu viens de dire, là, mais je voulais juste mettre l'accent là-dessus. Puis, Patricia, après tout ça, dis-moi s'il y avait un conseil que tu aurais voulu avoir avant de commencer ton stage au tout début, qu'est-ce que ça serait maintenant que tu arrives à la fin?
C'est une bonne question. De ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur parce que je pense que j'ai cette image très critique envers moi-même. De, tu sais, je suis pas là pour sauver le monde. Je sais que je suis très privilégiée dans ma vie. De pas oublier ça. Je me permets pas d'oublier que, oui, je suis privilégiée, mais j'utilise ce privilège-là au mieux de mes capacités pour faire une différence. Pas pour moi, parce que c'est pas pour moi dire que je me sens mieux, que je me sens hot, mais je me mets cette limite-là de genre, ah ben tu sais, est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour les autres? Fait que je pense que c'est ça, de pas avoir peur, parce que en fin de compte, on en sort tous gagnants quand on s'embarque dans un projet comme ça. Tu sais, je pense que j'en ai plus appris. Là, je reviens sur le fait que je suis très critique de moi-même. Là. Je pense que j'en ai plus appris de qu'est-ce que j'ai été en mesure de donner de mon côté. Donc, je pense que c'est ça que je retiens comme conseil ou que j'aurais aimé avoir comme conseil. Et je le relancerai aux autres de pas dire comme « Ah, ben, tu sais, j'ai pas les capacités, j'ai pas les qualités. Qui suis-je pour croire que je peux faire ces différences-là? » Parce que si on pense tout comme ça, on s'en va où en tant que société?
Fait qu'en gros, de ne pas avoir peur, puis de ne pas oublier pourquoi tu fais ça, non?
Exact. Écoute, moi, ça fait des mois, je dirais, ça fait des semaines que je peux me permettre la chance de dire que je te connais. Que je connais ton parcours, mais pour les gens qui nous écoutent, Simon, pourquoi un PCJ? C'est quoi l'expérience pertinente que tu avais avant de t'embarquer dans un stage PCJ?
Yes, puis c'est drôle parce que tu dis effectivement, je veux dire, ça fait quand même quelques semaines qu'on se côtoie, mais il y a clairement des informations que je n'ai pas partagées ou parce que c'est pas venu sur le sujet. Fait que c'est peut-être là que ça va se révéler, on verra. Mais non, en fait, quelle expérience! Écoute, moi, c'est loin d'être ma première expérience à l'international, en contexte de développement international, de coopération internationale. Pour ma part, j'ai fait deux QSF, Québec sans frontières, un en tant que participant avec Alternative, et un en tant que qu'accompagnateur aussi avec Alternative, le premier étant à El Salvador et le deuxième en Équateur. Par la suite, j'ai fait un mandat de coopérant volontaire en Bolivie avec le CECI d'une durée de un an dans lequel j'étais. C'était un poste de ressources humaines, je me souviens plus exactement de l'appellation du titre, mais en gros, j'étais une des personnes responsables pour accueillir les autres volontaires. J'aime bien, en tout cas, à la blague, je dis que j'étais un peu leur nounou, dans le sens que quand ils arrivaient, c'est moi qui allais les chercher à l'aéroport, je les accueillais, je m'assurais que de leur trouver un appartement, on faisait ça ensemble. Je les intégrais dans leur milieu de stage, avec les partenaires locaux. Fait que je faisais souvent le lien entre le CECI, les volontaires et les partenaires. Et des suivis de projets et tout, là. Puis c'est sûr que j'ai fait bien des affaires pendant ça. Aussi, quand ils étaient malades, d'où la partie nounou, quand ils étaient malades, c'était moi qui appelais. Disons que j'en ai vu des belles, comment ça, des vertes et des pommes. Les employés de l'hôpital, à la fin, me reconnaissaient un petit peu. On allait tout le temps à même hôpital, puis en même temps, c'est normal d'être malade, surtout en Bolivie, à La Paz. L'altitude est quand même un point important sur la santé de plusieurs. Fait que c'est quand même tout à fait normal. Fait que c'est ça que je faisais avant. Puis pourquoi on fait un PSIJ? C'est que, en fait, mon mandat en Bolivie date de... Ça, je pense pas de l'avoir déjà dit, d'ailleurs, tu vas avoir une exclusivité. mon mandat en Bolivie avait pris fin en 2019. C'est de 2018 à 2019. Puis après est venue la pandémie. Mmh. Donc, tout ce qui était mandat international, c'était un peu plus difficile. Puis, je me suis trouvé un emploi à ce moment-là dans une compagnie de développement de programme. Je faisais ça pendant mes études comme job étudiante, puis je suis retourné dans ce domaine-là. Un peu comme gestion de projet, gestionnaire de projet, gestionnaire de petite équipe, travailler sur des tests automatisés. Là, en tout cas, je n'entrerai pas dans les détails. Mais j'ai fait ça pendant 3 ans, puis j'ai fait ça principalement à cause de la pandémie. On ne se le cachera pas, c'était plus facile à faire à distance pendant ce temps-là. Il n'y avait pas, comme j'ai dit, les mandats à l'étranger en coopération internationale, c'était plus difficile, il y en avait moins, du moins pendant un certain temps. Puis une fois dedans, ben, c'est tout ce qui vient avec la sécurité financière et tout. J'étais quand même, je veux pas, j'avais un bon salaire, je veux pas, puis tu sais, des conditions, puis j'aurais pu continuer là-dedans à tout jamais. Mais ça me faisait tellement pas triper. j'étais tellement, après 3 ans, c'est comme, après 3 ans, j'ai fait, comme j'ai atteint mon quota, puis je veux retourner dans mes premiers amours, qui étaient la coopération internationale, le développement, etc. Fait que je me suis dit, le PSIJ, je pense que c'est une excellente façon de me remettre dans le bain, de retourner là-dedans. Puis aussi, pour une question de timing, je trouvais ça cool. Il y avait des cool projets, dont celui que je suis en ce moment. Le projet m'intéressait beaucoup. Puis le fait que ce soit virtuel, ben, ça me permettait justement de revenir dans le domaine sans trop chambouler mon quotidien, je veux dire ça comme ça. Mais yeah, fait que c'est comme ça que je me suis retrouvé chez l'ami, à un stage PSIJ. Puis l'avenir nous dira bien ce qui m'attend.
Nice, nice. Fait que dans le fond, t'as décidé, après 3 ans de retraite, d'avoir été un nounou en Bolivie, que c'était le moment de revenir dans un stage de PSIJ en virtuel avec l'ami. Pourquoi? Pourquoi t'as choisi l'ami? Pourquoi ce mandat-là? Puis comment t'es tombé sur ce stage-là?
Yeah! Premièrement, le comment je suis tombé sur ce stage-là, moi, il y a un site que je regarde quand même régulièrement encore à ce jour, qui est le site de l'ACOSI, où il y a tous les emplois du domaine puis les stages offerts. Puis pourquoi l'AMI? Honnêtement, ben d'un, l'AMI, c'est un organisme que j'avais déjà entendu parler. Je connais quelqu'un, d'ailleurs, qui travaille. J'avais entendu quand même des bons mots. Mais pourquoi, principalement, c'était le mandat? Un mandat en gestion de projet, je trouvais ça cool. C'est quelque chose que j'avais déjà fait de la gestion de projet par le passé, mais jamais, comment dire, jamais avec un poste. Je veux dire, la gestion de projet, j'en ai fait dans mes tâches, mais j'avais jamais eu un poste ou un titre, mettons, de gestion de projet. Fait que je trouvais ça cool d'avoir cette expérience-là un peu plus derrière la cravate. Puis comme j'ai dit, c'est quoi que j'ai fait souvent dans mes mandats. Puis je pense que j'ai quand même une certaine expérience par rapport à ça. Puis je trouvais ça le fun de pouvoir la mettre un petit peu plus en application concrètement. Là, je veux dire ça comme ça.
Fait que dans le fond, t'as eu un petit upgrade.
Ben, c'est une façon de le dire, I guess. J'ai passé de nounou à gestionnaire, c'est ça
que tu veux dire?
Non, non, mais même, c'est drôle le terme nounou, parce qu'on s'entend que c'était pas ça mon titre, mais je m'amuse à dire ça, parce que, ben, je veux pas, ça développe des liens facilement avec les personnes, puis le monde, tu veux pas, ils te font de plus en plus confiance, parce que t'es là pour les aider, tu sais.
Ouais, mais là, faut quand même le dire pour les gens qui nous écoutent, que vous le voyez pas, moi, je le vois, Simon, je sais, il y a l'air de quoi... Puis pour de vrai, moi, arriver en Bolivie, pas savoir quoi m'attendre, c'est définitivement la définition de qu'est-ce que je voyais comme un nounou. Genre, tu sais, la personne que t'es genre, j'ai besoin d'être réconforté, j'ai besoin d'un câlin, c'est clairement Simon, j'irai voir. Fait que ils ont choisi la bonne personne, là, on va se le dire.
Très drôle, mais oui. Fait que c'est pas un upgrade, je retournerai nounou n'importe quand, mais... Mais ouais, non. Mais c'est ça, fait que je voulais peut-être plus une expérience concrète, disons, en gestion de projet, là. Grosso modo. Puis le stage, il m'intéressait, c'était la Bolivie, puis que je connaissais déjà, fait que même en virtuel, je connaissais quand même leur réalité un peu. C'est sûr que c'était pas dans la même ville dans laquelle j'avais vécu, mais je veux dire, j'avais quand même des référents.
Est-ce que t'as un petit intérêt, plutôt un petit penchant, est-ce qu'on pourrait dire, plutôt vers l'Amérique latine?
Définitivement. En fait, mon amour pour l'Amérique latine vient de quand j'étais jeune. J'ai vécu au Pérou à mes 10 ans pendant un an avec mes parents qui, eux aussi, ont fait un mandat de coopération volontaire, en fait. C'était pas tout à fait ça l'épilation à ce moment-là, mais c'est à peu près l'équivalent. Fait que moi, j'ai vécu dans un petit village là, de 1200 habitants. J'étais allé à l'école là-bas. J'ai appris l'espagnol là pendant un an. Fait que je veux pas, la piqûre de l'Amérique latine vient de là. J'ai fait plusieurs autres projets par la suite au Pérou. À 18 ans, j'ai fait un stage de traduction, puis d'accompagnement de groupe finalement. C'est ça. Puis je suis retourné à quelques reprises là, au Pérou. Quand j'étais en Bolivie, j'étais allé passer une semaine ou deux à peu près au Pérou, là, vu que j'avais des contacts. Non, la passion elle date de longtemps. Mes études aussi, j'ai étudié en sciences politiques, relations internationales à l'UQAM. Puis mes projets ont toujours tourné autour de ça. Pendant mes études, les étés, je partais, je faisais mes QSF, puis après je revenais, puis c'était souvent, mes travaux, je les faisais souvent sur les pays que j'allais visiter, ben, le pays des projets, fait que je mélangeais le concret, l'expérience, puis la théorie, je veux dire ça comme ça. Évidemment, j'ai pas fait tous les pays d'Amérique latine, ils se distinguent tous l'un de l'autre, et j'en ai beaucoup d'autres à ma liste, tout ça pour dire oui, j'aime beaucoup l'Amérique latine, puis j'aimerais que ça continue mon champ professionnel, mettons, dans ce domaine.
Nice. Maintenant qu'on arrive à la fin, qu'est-ce que tu retiens le plus de ce stage-là?
Encore une fois, je pense qu'il faut le rappeler. J'ai l'impression que ce stage-là, il est quand même particulier. Parce que, puis je parle pas juste du mien, là, mais je parle de notre cohorte en général. C'est le volet virtuel. On n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers, on n'est certainement pas les derniers à faire ça. Mais je crois quand même qu'on n'est pas... Tu sais, je veux dire, on fait quand même partie d'une petite minorité de tous les stages PSCG qui se sont faits, qui se font en virtuel. Ça amène son lot de défis, mais ça amène surtout son lot d'apprentissage, j'ai l'impression, parce que, comme ça a été mentionné déjà, tout ce qui est communication, même si tu parles la langue, il y a toute la stratégie communicationnelle autour, il y a toutes les méthodes de communication, il y a le non-dit, le non-écrit, la façon de jaser, tu sais, qui rentre en compte. Quand on est en présentiel, il y en a. Il y a des méthodes de communiquer qui sont plus frappantes, qui sont plus comme observables. En virtuel, il y en a des différents, il y en a. Puis il y en a d'autres qui ont... En tout cas, personnellement, pour avoir fait plusieurs mandats à l'étranger sur le terrain, moi, ça a été un défi. Le fait de ne pas pouvoir avoir un contact direct, quotidien, ça a été un bon défi parce que... Après, tu te demandes, est-ce que ce que je fais, c'est correct? Est-ce que, genre, ce que je fais, c'est pas correct? J'écris-tu juste pour savoir si c'est correct? Tu sais, c'est comme... Tandis qu'en présentiel, tu fais juste comme, ah ouais, tu sais, c'est cool. Ou, tu sais, juste un petit sourire, une petite approbation, tu le directes, that's it, tu sais. Mais non, fait que la communication, ça a été tout un apprentissage. Une des choses qu'on nous avait dit au début, c'est de bien établir les canaux de communication. Je pense que c'est quelque chose de super important. Fait que qu'est-ce que j'en retiens? J'ai l'impression de divaguer pour revenir à ça. Qu'est-ce que j'en retiens? J'ai appris beaucoup, c'est ça, au niveau communicationnel, puis autonomie. Avoir confiance en ce que tu fais, puis au pire, tu le refais. T'sais, une fois que c'est partagé, ben tu peux faire des correctifs. Tu peux faire vraiment l'autonomie, puis prendre les devants. Essayer de faire des choses. Évidemment, toujours avec leurs besoins en tête, là, on s'entend. Là. Mais vraiment, le prendre les devants, faire des documents que tu penses qui vont leur être utiles, même s'ils ne l'ont pas nécessairement demandé. Puis au pire, tu l'ajustes, tu le modifies ensemble, mais vraiment prendre les devants, je pense que c'est quand même une leçon que j'espère retenir, ou du moins que j'ai retenu de mon mandat jusqu'à présent.
C'est quoi un conseil que tu aurais aimé avoir avant de commencer? Que genre, si tu aurais pu te faire dire, écoute, pour le reste, Simon, je trouve que faut que tu penses à ça. Ou genre, faut pas que tu oublies ça. Ça aurait été quoi? Puis comment est-ce que tu penses que ça t'aurait impacté? Comment ça aurait fait un changement sur ton stage en tant que tel?
Mm-hmm. C'est drôle parce que c'est moi qui ai écrit les questions en partie. Puis à chaque fois, c'est comme j'écris la question, mais j'ai pas nécessairement la réponse automatiquement. Fait je pense, premièrement, je pense que tu as amené des très bons points à cette question-là. Dans le doute, je vais reprendre un peu ce que tu as dit puis je vais le reformuler. Mais dans le doute ou dans les moments de doute, rappelle-toi pourquoi tu fais ça, c'est quoi tes idées à la base, tes intentions derrière ça. Fait que ça, c'est quelque chose que, à quelques moments, probablement dans mon mandat, j'aurais aimé me le faire rappeler. Comme, oublie pas pourquoi tu fais ça, oublie pas les intentions, oublie pas les raisons. Puis, un peu de laisser aller. Je pense que je pense que, encore une fois, tu l'as mentionné, mais je vais élaborer un peu plus. Mais on a grandi ou on est habitué de travailler dans une culture ultra rapide, ultra performante. Puis si on s'accroche juste à ça dans nos mandats à l'étranger, autant en virtuel qu'en présentiel, à un moment donné, on est voué à frapper un mur ou du moins à se remettre en question parce que le rythme de travail est différent. C'est pas une question de performance, c'est différent. Je pense que les deux sont efficaces, je pense que les deux sont peut-être pas faites pour tout le monde. Moi, j'ai clairement une méthode de travail préférée entre les deux, mais juste de laisser aller nos habitudes nord-américaines quand on travaille avec des pays, avec des organismes des pays des Suds, parce que c'est différent, puis c'est tout à fait correct. Dans ce contexte-là, c'est souvent nous à s'adapter à eux et non l'inverse. Fait que c'est ça, juste de laisser aller le plus possible, là, des fois, des vieilles mentalités qu'on a ancrées dans notre éducation. Je veux pas, là.
Nice.
C'est donc ce qui conclut le premier épisode de la saison. Ne manquez pas le prochain, dans lequel nous recevons une autre stagiaire de notre cohorte chez l'ami.
Sur ce, ciao!
Bye!